Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Eh ben c'est parti. Donc ouais, première question, quel est ton premier souvenir de sport? C'est pas forcément quel est ton vrai premier souvenir, ça peut être un souvenir que t'aimes bien raconter ou qui te fait un peu rire.
Après, il y en a deux, et c'est par rapport aussi à l'âge. Il y a le titre de Jean Galfion en 96, quand il est champion olympique. Donc évidemment, pour un perchiste, c'est logique. Et après, celui où je me souviens vraiment, c'est la victoire des Bleus en 98. Pour l'un, j'avais 10, l'autre, j'avais 12 ans. C'est là où tu commences un peu à déjà te souvenir et puis aussi à comprendre un petit peu ce que c'est, quoi.
C'est marrant parce que tu vois, j'ai rencontré Jean il y a un an sur une interview qui a duré plus de 2 heures. Il m'a beaucoup parlé de toi. Et il m'a beaucoup parlé de ce besoin de transmission, ce rôle qu'il a eu effectivement entre perchistes de s'accompagner. On en parlera un peu parce que aussi je sais qu'il y a Armand ce week-end et que vous vous entendez plutôt bien. J'ai vu des petits messages sur les réseaux sociaux assez cool. Papa perchiste, toi est-ce que il y avait d'autres sports que t'as exploré avant d'aller prendre de la hauteur, on va dire?
Ouais, alors moi j'ai une histoire un peu atypique. J'ai commencé tout gamin parce que mon père faisait du saut à la perche avant même que je naisse. La petite anecdote, c'est que quand je suis sorti de la maternité, il avait une petite compète à côté et du coup il m'a posé sur le tapis et donc j'avais une semaine et j'ai pris entre guillemets l'ADN du sautoir à ce moment-là.
T'as senti le talc déjà un peu à ce moment-là? C'est de la magnésie ou du talc d'ailleurs?
Enfin moi c'est de la magnésie, ouais. Et après le truc c'est qu'il faut aussi remettre dans le décor, c'est que mon père était pas un grand perchiste, il avait un niveau régional on va dire, c'est aussi intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas besoin de sauter haut pour être passionné, et moi c'est typiquement le cas. Et derrière après donc j'ai commencé à faire de l'athlé et de la perche parce que c'était ma priorité. Voilà, on touchait un peu à tout. J'ai eu une période en fait entre 10 et 14 ans où j'ai déménagé, j'étais plus au club où j'étais, et en fait cet endroit-là, le mode athlétique du club ne correspondait pas du tout à mes attentes. Et du coup, j'ai arrêté un petit peu. J'avais des potes qui faisaient j'étais dans les Landes. Et donc, du coup, terre un peu de basket. Et donc, j'étais faire un peu de basket. Voilà, j'avais entre 10 et 14 ans. Le seul avantage que j'avais, c'était pas ma taille, mais c'était le fait de pouvoir faire des allers-retours sans problème parce que justement, je venais de l'athlé. Donc, c'était assez cool. Et ça m'empêchait pas quand même à la maison de... prendre un bout de bois et de faire de mimer de la perche et tout, alors que j'étais loin des sautoirs. Et par contre, quand je suis revenu du coup à Cognac, je pense que le lendemain j'étais direct au sautoir et depuis je l'ai plus jamais lâché quoi.
Mais on sent vraiment ça chez toi, tu as la passion pour ce sport. Est-ce que tu te souviens des premières émotions que tu as eues sur tes premiers sauts? Qu'est-ce qui te fait vibrer quoi? C'est cette adrénaline qu'il y a de prendre la hauteur, justement avec Jean on parlait beaucoup de ça, tu vois, de l'entrain qu'il faut pour aller sauter, parce que faut avoir du cran quoi, faut pas avoir peur. Il y a des jours où ça marche pas parce que t'es un peu moins dedans. Toi c'est quoi la sensation qui t'a plu et qui t'a rendu accro entre guillemets?
Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le côté un peu spectaculaire et un peu hors du commun de pouvoir s'élever. Alors quand t'es gamin et que tu sautes 2 mètres, on va dire 2 mètres c'est pas grand chose dans l'absolu, mais c'est toujours plus que n'importe quoi. Et puis après il y a aussi je pense l'attrait de la discipline en elle-même avec tout ce qu'elle va impliquer, c'est-à-dire que comme tu disais c'est vraiment il faut être investi, il faut à un moment donné s'engager à 100%. Tu peux pas faire cette discipline, tu peux pas la faire à moitié. Et ça c'est aussi je pense quelque chose qui du coup me correspond bien par rapport aussi à ma personnalité, et du coup j'y ai trouvé mon compte direct sans me poser de questions. Et après il est évident que plus tu montes et plus les sensations elles sont sympas, parce que t'as des fois tu passes des déclics, suffit que t'arrives à passer une perche un peu plus grosse, que t'arrives à faire le saut avec et tu sens en fait qu'elle pousse un peu plus fort. Et même ça peut être des sauts, enfin j'ai des souvenirs comme ça, des sauts à 4 mètres, 4,30 hein, donc pour un mec qui a fait plus de 6 mètres, c'est pas grand chose. Mais voilà, t'as ce petit plus que tu ressens, et en fait moi ça faisait que nourrir en fait la volonté d'en faire tout le temps quoi.
Ce que je comprends en t'écoutant, c'est que ces petits centimètres que tu vas aller chercher en plus, c'est des microsecondes, mais qui t'apportent énormément de sensations une fois que t'es en l'air, c'est ça? Ou c'est vraiment dans le saut, ou c'est vraiment ce moment où tu planes justement et tu fais ce tour de magie au-dessus de la barre?
Ouais, c'est un peu quand même la globalité quoi. C'est vraiment un peu cette globalité, et en plus c'est quelque chose que l'on a qui est pas présent dans beaucoup de disciplines, c'est que on visualise déjà la performance qu'on s'apprête à faire, ouais. Si on la passe. Et je veux dire, si on prend un 100 mètres, on est incapable de dire, 9 secondes 80, ça fait ça. Et tu peux pas le visualiser. Comme saut en longueur, tu peux à peu près le visualiser, mais c'est pas matérialisé comme nous, on a avec la barre, on a le truc, et ça fait vraiment le côté barrière à franchir.
Ouais, tu peux passer à côté, tu peux la regarder,
et puis en fait, tu peux avoir aussi ce côté un peu blocage qui est que, et souvent c'est le premier chiffre qui va changer. En fonction du niveau, tu as le blocage à 5 mètres qui lui a été assez prédominant dans pas mal de perchistes, mais t'en as, ils sont capables de faire 90, 95 sans problème. Tu mets la barre à 5 mètres parce qu'il y a 5 mètres, il n'y a plus personne. Et du coup, c'est assez intéressant parce que psychologiquement, ça montre aussi la force que tu as ou que tu n'as pas pour ce sport-là. Et après, il est évident que plus tu montes et plus... Voilà, quand t'es en haut, ces petits laps de secondes que tu entre guillemets que tu gagnes, c'est du coup ça te rallonge un petit peu la descente, et c'est là où t'as encore plus de temps pour apprécier la performance quoi.
Ok. C'était déjà arrivé de mettre des barres sans savoir exactement à quelle hauteur elles étaient, justement pour enlever ce blocage?
Ah, en fait, moi, je te parle de ça, mais moi, je n'ai jamais trop eu ce blocage. Donc après, c'est plus sur de la globalité, c'est quelque chose qui a été amené, mais j'ai rarement eu ce problème-là. Par contre, après, en compétition, déjà, c'est pas possible de sauter sans savoir. Ou alors, c'est que tu te mets en mode autiste c'est ton coach qui fait tout, et toi, t'attends, c'est à toi de sauter, tu regardes rien du tout. Donc ça fait quand même un peu bizarre, quoi. Par contre, à l'entraînement, ça peut arriver. Alors des fois, c'est intentionnel, des fois, c'est entre guillemets t'as pas fait exprès, c'est que ton coach il a monté le fil, tu te dis il a peut-être monté de 10, en fait il a monté de 20 ou un truc comme ça, mais du coup de l'impact en lui-même est pas si important que ça, et d'autant plus quand t'as pas ce problème là de base d'être bloqué parce que la barre elle a pris 3 cm, mais c'était les 3 cm de l'enfer entre guillemets, donc non, là-dessus c'est y a pas eu de souci quoi.
Ok. T'as mentionné que la perche ça correspondait très bien avec ta personnalité, t'as mentionné l'intensité. Il était comment le petit Renaud, jeune et intense?
Il était sportif, mais aussi... alors après, moi, j'ai toujours été assez réservé, timide. Et le sport, en plus, m'a permis aussi de grandir un peu là-dessus, de m'extravertir un petit peu. Mais voilà, comme on sait, hein, le naturel, il revient toujours au galop sans souci. Mais non, après, je suis quand même un peu ce côté un peu téméraire, quoi. C'est-à-dire que quand j'ai une idée, enfin, de toute façon, c'est sûr, quand j'ai une idée en tête, c'est impossible de me l'enlever. Et donc, avec ses points forts et ses points faibles. Et après, ouais, le petit Renault, quand il faisait de la perche, c'était, il y avait, quoi qu'il arrive, il y avait cette volonté de jamais rien lâcher. Qui fait que si j'avais décidé que je voulais passer ou de réussir ça, je suis capable de passer des heures tant que j'y arrivais pas, quoi. C'est une caractéristique que j'ai gardée et que j'ai toujours 30 ans après, quoi.
Avec le mauvais côté un peu peut-être brûlé, mais bon, il faut faire un effort.
Ouais. Je pense que c'est aussi ce côté-là qui m'a permis d'atteindre le niveau que j'ai eu, parce qu'à un moment donné, si tu lâches trop tôt, tu peux pas prétendre et être le meilleur du monde en t'arrêtant parce que t'as un petit obstacle, quoi.
Non, et en plus, c'est là où je trouve ton parcours est super inspirant en tant qu'athlète de haut niveau. Tu vois, moi, j'ai arrêté le tennis à mes 16 ans parce que justement, j'étais pas dans le top 50 français. Tu vois, j'avais cette petite barrière. Et toi, je sais que t'as eu des résultats finalement assez tard. Des perches assez hautes et des barres assez hautes qui sont venues à peu près tard, mais en tout cas, t'as gardé la passion et l'envie d'y arriver. C'est à quel moment peut-être que t'as eu ce déclic de te dire, tiens, la perche, j'ai envie vraiment d'en faire mon métier, c'est possible déjà d'en faire mon métier, d'en faire des grosses performances. Il y a eu un moment, un déclic, hein?
Ouais, plus ou moins. En fait, je me suis jamais vraiment dit, genre, demain, la perche, ça sera mon métier. Et en fait, j'ai eu la chance, sur une période assez importante, de progresser chaque année. Voilà, je me souviens, c'était 2005, je fais la première fois les 5 mètres, et puis c'est monté comme ça. Non, je dis des conneries, c'est 2007, pardon. Je sais, par contre, une chose qui est sûre, c'est que entre mon premier 5 mètres et mon premier 6 mètres, il s'est passé 3 ans. Ça, c'est une progression qui est fulgurante et qui a jamais été vue. Même Duplantis a pas eu cette progression aussi rapide. Et ce qui fait que du coup, il y a des questions qui ne se sont pas posées parce qu'il n'y avait pas eu le temps de se les poser. Par contre, je me souviens surtout quand j'étais au lycée et puis après à la fac, que la question de se poser était de savoir qu'est-ce que tu fais. Et moi, ma passion, là où j'étais, où j'avais envie d'être, c'était sur un stade. Après, j'ai commencé à gagner quelques petits meetings, gagner un tout petit peu d'argent sur des petits meetings. Et c'était des billets de 50, 100, 200 euros par-ci, par-là. Mais tout mis bout à bout, tu fais « Ouais, t'as réussi à gagner un petit peu d'argent pour au moins ton sport, t'as rien coûté. T'as réussi à te payer tes petits trucs pour faire ton année. » Donc, c'est cool. Et puis après, l'année d'après, tu gagnes 10, 15, 30 centimètres. Et donc, du coup, ça rajoute un petit peu plus d'argent parce que tu fais des meetings un peu plus importants. J'ai eu un moment où je me suis dit « Écoute, Renaud, t'as deux choix. T'as soit… » t'arrêtes la perche et tu fais tes études parce que les études te permettront normalement d'avoir un travail à terme. Soit tu te donnes encore un peu de temps par la perche parce que c'est vraiment ce que t'aimes et que rentrer dans la vie active à 25 ans ou 27 ans, tu verras dans l'absolu pas la différence sur le long terme. Par contre, t'auras quand même kiffé quelque chose. À ce moment-là où j'ai mis un petit peu cette stratégie en place, c'est là où j'ai passé le gros cap. Et l'année d'après, je fais 5,70, sélection internationale. Je gagnais quand même, du coup, j'étais sur des meetings qui n'étaient pas Diamond League, mais sur des meetings juste un peu le niveau en dessous où je faisais des podiums régulièrement. Je commençais à gagner un peu d'argent avec ça. Et là, je me suis dit, attends, t'as les jeux qui arrivent là, t'es vraiment proche. On tente une année de plus, quoi. Puis l'année de plus, c'est l'année où je fais 6 mètres et où là, après, j'ai commencé à tout exploser. Et du coup, c'est là où je me suis dit, maintenant, c'est bon. Les mecs contre qui tu es en train de te battre, ils sont là à 100%. C'est leur boulot. Toi, il faut que tu fasses un choix, quoi. Puis après, un partenaire est arrivé et m'a dit, écoute, nous, on veut t'aider, t'accompagner pour la côté. Donc, le choix, il s'est fait comme ça. Mais du coup, il n'y a pas eu une stratégie où je me suis dit, si je fais ça, j'arrête. Si je ne fais pas ça, je continue. Dès lors qu'en fait, j'arrivais à, dans un premier temps, à survivre de ma passion, moi, j'étais content. Mes parents, peut-être un petit peu moins, parce que c'est après comme tous les parents. Mais quand tu n'as pas vécu ça, tu te dis, mais ce n'est pas un travail. Il faut travailler à l'école, etc., etc. Ce qui est vrai. Mais après, j'ai eu cette chance de passer le cap qui m'a permis de ne plus me poser les mêmes questions. Et puis, par contre, de toujours prendre un plaisir immense à être sur le sautoir. Et du coup, c'était là où j'étais le mieux, quoi. Après, ouais, quand t'as la chance de faire ce que t'aimes, tu te poses plus les mêmes questions, quoi.
Mais écoute, ouais, c'est captivant. Et je trouve qu'il y a un super conseil pour les jeunes. C'était de se dire, pas forcément se fixer un gros objectif, se faire un peu des ultimatums. Voilà, si j'arrive à faire ça, dans ce cas-là, je pars là-dessus. Mais c'est de continuer le plaisir et à un an ou deux ans près, peut se passer beaucoup, beaucoup de choses et ça change pas fondamentalement tout le...
Bah, 10 ans après, je pense que tu vois pas la diff. Après, moi, je suis justement un peu le contre-exemple du côté sportif de haut niveau, c'est que la plupart des personnes contre qui j'ai été en compétition sont des mecs qui, à 19-20 ans, ils avaient déjà des sélections chez les jeunes, ils avaient potentiellement déjà été champions nationaux, voire même champions internationaux. Moi, à cette époque-là, j'étais tout juste dans le top 15 français, mais alors top 15 au bas du top 15 et pas en haut du top 15. Et donc, au niveau mondial, c'était même pas la peine. L'anecdote, c'est que dans la catégorie junior, donc les moins de 20 ans, à l'époque, le record du monde, il était à 5m80. Donc, c'était bon, une bonne catégorie. Moi, mon record, il était à 4m70. Le gap, il est monstrueux. Et ça ne m'a pas empêché en fait, de continuer parce que j'ai pris du plaisir. Et en fait, en 3 ans, ce gap, il a été, il a été comblé là où personne ne l'aurait imaginé. Et ce qui fait qu'après, du coup, ça m'a permis aussi de, à la fois d'avoir des objectifs à court et moyen terme réalisables et aussi des objectifs un peu, entre guillemets, lunaires. Mais c'est cet objectif un peu irréel que tu peux te mettre qui des fois te raccroche et te dire bah ouais mais attends je vais quand même me donner les moyens d'essayer une année de plus. Puis quand tu t'en rapproches un peu bah du coup des fois t'es la raison l'emporte et puis bah tu dis bah ouais mais on c'est quand même pas mal quoi, je préfère être là, enfin après faut être objectif hein, je préfère être à l'entraînement plutôt que d'être sur un banc à la fac à écouter des trucs où en plus je savais même pas si ça allait devenir mon métier et qu'il fallait que je me réorganise. Après, j'avais quand même, à un moment donné, un ultimatum dans ma tête où je me dis, bon, clairement, si dans 2 ans, de toute façon, je ne gagne pas d'argent pour en vivre, j'arrêterai jamais, c'est une évidence, mais par contre, j'arrêterai l'implication totale et puis bah, je commencerai quand même à préparer le futur. Quoi. Mais ce choix-là, en tout cas, n'a pas eu lieu. Quoi. Ouais.
Il a payé. Comment est-ce que tu fais durer cette passion, cette flamme ? À sauter encore, à organiser des événements comme le All-Star Perch, tu vois. Qu'est-ce qui te fait vivre ? Qu'est-ce qui t'anime ?
C'est la passion qui fait que je ne me pose pas la question. Je considère que quand tu es passionné d'un truc, tu ne te poses plus les mêmes questions, en fait. Moi, je ne me suis jamais posé la question de me dire pourquoi je fais de la perche. Je sais pourquoi je le fais, parce que j'adore ça et que je vis pour ça. Donc à partir de ce moment-là, est-ce que tu continues ? Bah ouais, pourquoi je vais arrêter ? C'est ce que j'aime. Alors qu'à l'inverse, et ça c'est indépendant du niveau, mais un athlète qui fait ça non pas par passion, mais parce qu'il est bon, le jour où il n'y a plus trop les résultats ou quoi, là il fait « Ah ouais, mais bon, c'est pas facile quand même hein. ». Et donc du coup, c'est comme ça que tu peux en perdre. Et c'est pas pour autant que c'est un mauvais, ça peut être le meilleur du monde et qui arrête soudainement parce que c'est plus son truc. Moi, je me suis jamais posé cette question-là et c'est même à l'inverse. Je sais que je vais être longtemps sur les sautoirs. Après, c'est juste de se dire, il y aura un jour où j'arrêterai de me mettre en mode professionnel et donc du coup, je retournerai dans le côté loisir pur amateur parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est un loisir de faire de la perche, c'est un loisir et j'ai la chance de le faire au plus haut niveau. Quoi.
Ouais, bah carrément. On est aujourd'hui à Clermont pour le All-Star Perche, donc qui a lieu demain. Donc c'est ton événement. Je serais curieux de savoir la genèse du projet, tu vois. Alors moi, après justement avoir fait du tennis, je suis vite parti sur l'entrepreneuriat. J'ai monté plusieurs boîtes, donc je suis toujours très intéressé, tu vois, de savoir un peu les dessous business et les histoires entrepreneuriales qui se cachent derrière ce type de projet. D'où c'est venu cette histoire justement que t'as montée et qui nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer grâce à Puma.
Bah en fait, l'histoire, elle est partie de différentes choses. Déjà, Sergueï Boubka avait sa propre compétition en Ukraine, là où il a fait le record du monde. Il y a eu, je crois, plus de 25 éditions, quelque chose comme ça. Donc, c'est quand même assez, assez solide.
À Donetsk,
ouais. Je ne sais plus la première année, mais je crois que c'est fin des années 80 ou début des années 90, quelque chose comme ça. Ouais, c'est quand même fort. Et puis, en plus, c'est en Ukraine, à Donetsk, c'est un peu comme Clermont en France, quoi. C'est pas le truc où tu dis tu vas monter un événement de ouf qui va perdurer. C'est grâce aux personnes qui étaient présentes que ça a pu exister. Et donc déjà, il y avait cet événement-là. Et je me suis dit, bah ouais, ça pourrait être quand même sympa d'avoir une association et de faire un truc un peu en partage avec Donetsk à Clermont, parce que bah forcément moi j'étais là, j'avais les performances. Et je suis parti d'un constat aussi qui était assez simple, c'est que le public clermontois me connaissait, me suivait, mais me voyait pas, hormis une fois quand on avait les championnats de France à Clermont. Mais du coup, le contexte championnat de France, c'est pas le contexte meeting, c'est pas le contexte saut à la perche en lui-même. À côté de ça, on est une discipline où il y avait déjà un circuit qui était en place avec une tournée de meeting qui existe depuis quasiment 30 ans. Donc en fait, l'inspiration, elle a été un petit peu prise de ce qui se faisait déjà un petit peu. Et puis moi, après, je me suis dit, bah voilà, le meilleur du moment, faut faire un truc qui soit à la hauteur de cet événement-là. Et donc, j'ai créé ma deuxième société pour l'événementiel, pour lancer l'événement à fond. Et en fait, je me suis mis en mode entrepreneur, tout simplement, j'ai fait mon petit staff, j'ai pris 3-4 personnes avec qui je travaillais déjà. On a monté le projet. J'avais après tout le côté un peu les prestataires, etc., les relations avec les partenaires. Et puis voilà, j'ai eu la ville déjà qui a été un de mes premiers soutiens, parce que j'ai la maison des sports qui est un outil incroyable pour ça.
Lieu incroyable, ouais. On s'est baladé tout à l'heure pour aller chercher une salle pour l'enregistrement. On a vu, c'est génial quoi, pour les enfants et tout. C'est...
Exactement. C'est vraiment en fait un complexe où il y a tous les sports. Il y a tout. Ils ont même fait du trial. C'est vraiment sympa. Je me suis dit, t'as soit la possibilité de faire que le côté, entre guillemets, sous les lumières, très élitiste. Et moi, j'ai voulu développer un peu plus ça et de rendre, en fait, de me dire, on va faire quasiment, dans l'idéal, une semaine de perche où tout le monde a accès à la perche. Et donc là, hier, on avait encore 300 jeunes des écoles de Clermont qui sont venus, qui ont découvert le saut à la perche. Pour certains, ils ont peut-être découvert l'athlétisme et peut-être... le sport en règle générale. Donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant. C'est pas pour autant que dans les 300, ils vont venir à l'athlé ou à la perche derrière, mais en tout cas, le fait de pouvoir faire découvrir un sport qui est assez inaccessible dans un premier temps, c'est quand même assez intéressant. Et puis après, j'ai vraiment tous les niveaux. J'ai des concours qui commencent à 1m50 pour les plus jeunes. Et puis après, ça finit à plus de 6m. Hommes, femmes, parité, on a vraiment... J'en mets pour tout le monde, et c'est un peu ça l'objectif que j'avais, c'est de pouvoir transmettre le saut à la perche, transmettre cette passion, de le partager. Et puis à chaque fois, voilà, c'est une réussite. On est sur la 8e édition. Je vois que le niveau du meeting est toujours en rendez-vous. Donc ça aussi, c'est pour moi une vraie réussite, quoi.
Félicitations pour la longévité d'un événement, parce que non, mais c'est vrai, on en voit, tu vois, des événements de champions qui vont faire un an, deux ans, trois ans, et puis après ça s'essouffle un peu parce que plus de partenaires économiques, parce que le champion ou la championne, tu vois, a plus envie, tu vois. Et toi, on voit que ça dure, que ça plaît. Quand on se balade dans Clermont, les gens connaissent tous l'événement. Je pense que demain, ça sera ça le comble. Donc félicitations quoi, c'est une superbe réussite quoi. Donc si vous êtes dans la région, il faut y aller. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas dans la région, ça vaut le coup aussi de...
Ah, il faut venir aussi. On n'est pas sectaire, toute la France est invitée, il n'y a aucun problème quoi.
Bien sûr. C'est quoi ta vision peut-être dans 10 ans, dans 15 ans sur cet événement? Ça serait je sais pas, d'accueillir un record du monde sportivement peut-être, je sais pas, ou...
Le truc c'est que si je reprends déjà 7 ans en arrière, quand j'ai lancé l'événement, je me suis dit, j'ai une date de début et je veux pas de date de fin. Donc à partir de ce moment-là, j'avais déjà une vision avec une projection sur 10, 15, 20 ans sans souci. Là, j'ai déjà fait une bonne déjà première partie avec j'ai eu quand même pas mal de très bonnes performances, de la densité, etc. Mon objectif dans l'absolu, si je dois me projeter dans 10 ans, c'est à minima d'être toujours aussi bien, voire de continuer à essayer de développer un petit peu, de pouvoir... En fait, après, on est sur un contexte. C'est pas un problème de volonté. Après, c'est plus un problème de capacité de pouvoir mettre en place tout ce que l'on veut. Et pour ça, il y a deux choses. Il y a un, des ressources financières, parce que, entre guillemets, plus tu as de l'argent et plus c'est facile de faire des choses. Mais l'argent ne fait pas tout non plus. Et il y a aussi les ressources humaines. J'ai quand même, sur l'ensemble de la semaine, j'ai plus de 100 personnes, une centaine de personnes qui vont être impliquées de manière plus ou moins ponctuelle. Et puis, ça, il faut le trouver, quoi.
Uniquement pour la partie événementielle et organisation?
Sur toute la partie. C'est-à-dire que j'ai des... là, par exemple, je vais avoir entre 30 et 35 personnes qui vont être sur le jury. Parce que bah, sans les jurys, je ne peux pas officialiser les performances. Donc ça, c'est obligatoire.
Je ne savais pas que c'était autant de gens sur la partie jury, quoi.
Le truc, c'est que comme j'ai des compétitions, j'ai plusieurs concours qui sont un peu longs, le truc, c'est que je ne vais pas faire des équipes au minimum parce que suffit que pour X ou Y raison, il y en a une qui soit un peu fatiguée, qui ne peut pas venir ou quoi. Si tu n'as pas de spare, t'es foutu. Donc en fait, je préfère faire on fait des équipes un peu plus denses, comme ça permet de chacun en fait est un peu soulagé et pas sous pression, et ça c'est quand même assez intéressant. Et puis comme ça peut me permettre aussi de faire un petit peu tourner, et puis ça en donne aussi un peu à tout le monde. On pourrait le faire avec 20 personnes, mais là on serait un peu en flux tendu, et si t'as le moindre problème après t'es en stress, et on a déjà suffisamment de choses à gérer pour que voilà, on se dit ça franchement c'est une équipe qui tourne plutôt bien. Mais à savoir que ce soir et samedi matin midi, il y a trois concours, enfin trois sautoirs qui tournent à plein régime. Donc voilà, donc bah du coup c'est des équipes de 10 quasiment à chaque fois, ce qui dire, il faut se dire aussi à la perche, il te faut deux personnes pour monter les barres, des personnes au poteau pour pouvoir régler les poteaux, une personne pour s'assurer que la hauteur est la bonne, et puis après il y a les personnes qui entre deux et trois personnes qui vont gérer la feuille de concours. Donc voilà, tu as 10 personnes comme ça sans forcer quoi. Et donc voilà, et puis après ensuite, on a toute la partie on a les bénévoles, les gens qui vont être là pour le placement dans la salle quand il y a le public, les personnes qui vont être là pour accueillir les médias, pour accueillir les partenaires, pour accueillir voilà, il y a plein de prestations en une, et ce qui fait que on a quasiment une grosse centaine de personnes. Et donc par rapport à ça, mobiliser 100 personnes un jour, tu y arrives. Les mobiliser 2-3 jours, bon, déjà ça commence à être un peu plus rock'n'roll. Une semaine, c'est impossible quoi. Ou alors faut que tu aies un gros partenaire qui met un beau billet pour que du coup ça soulage un peu tout le monde, mais après on est dans un contexte économique actuel qui est quand même aussi un peu compliqué, et ce qui fait que des fois tu temporises un peu avec tout ce que tu as. Mais dans l'absolu, honnêtement, j'ai pas à me plaindre. On a bien cravaché aussi cette année pour justement avoir un nouveau partenaire titre, pour avoir des partenaires qui soient bien appliqués dans l'événement, et puis aussi de faire en sorte que l'événement soit séduisant pour que les gens viennent sans être forcés quoi. Et voilà, on n'a jamais forcé les gens à venir ici. On a des fois même plus de demandes pour venir nous filer un coup de main de besoins que l'on a. Donc ça aussi c'est bien, ça montre que le meeting a une certaine notoriété, a une certaine attractivité. Puis moi, le plus important avec mon équipe, c'est de justement cultiver ça pour que la compétition reste attractive et fasse continuer de faire rêver un peu les gens et de donner envie de venir nous aider quoi.
Ouais, ok. Bon, en tout cas, félicitations. On voit que c'est beaucoup de boulot, et je vois les petites étoiles dans tes yeux, donc on sent que ça te passionne et que tu t'ennuieras pas le jour où t'as envie de raccrocher un peu les crampons et de ranger les barres. Mais en tout cas, ouais, super chouette. Est-ce que peut-être la prochaine dimension, c'est faire un meeting d'athlétisme, c'est d'autres événements, Renault, La Villainie, peut-être un peu partout à travers le monde, avec tes amis dans la perche. Est-ce que ça peut être des choses que tu peux envisager ?
Ouais, ça fait déjà. En fait, avant que le Covid arrive, j'étais à deux doigts de créer un deuxième événement. De toute façon, le destin fait que des fois ça marche ou ça marche pas, hein, et on a eu le Covid, et donc du coup tout était un peu à l'arrêt, et donc on s'est refocalisé sur le All Star Perche parce que déjà c'était on voulait être sûr qu'il soit pas mort. Et donc là mon projet commence à refaire un peu surface, entre un projet plutôt en extérieur pour du coup être à la fois sur la période hivernale et à la fois sur la période estivale, qui peut être quand même assez sympa. Après, en fait, je me dis que là, tout de suite, j'ai quand même un petit focus sportif. Il y a les jeux qui arrivent dans un an et demi. Donc voilà, il y a quand même deux, trois trucs où, on va dire, si j'ai une dépense d'énergie à faire, je vais peut-être attendre de qu'on passe en 2025 à minima. Mais en tout cas.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Il faut avoir les idées pour que déjà les faire mûrir, les partager, de voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Mais oui, clairement, il y a mon objectif, il est que le All-Star Perche soit, entre guillemets, implanté à Clermont-Ferrand. Il restera toujours à Clermont-Ferrand. Par contre, c'est pas, je dirais, impossible qu'on ait un petit frère ou un grand frère qui arrive et qui se mette en place dans une autre ville, sous un autre format. Mais en tout cas, ça fait quelques années que j'ai l'ambition de le développer. Et je sais que ça se mettra en place le jour où il faudra, quoi.
Ok. Bon, bah écoute, merci pour le scoop. Et c'est tout le mal entrepreneurial que je te souhaite. On aime bien se rajouter des petits soucis et des challenges. Tu l'as mentionné, il y a une petite fête de quartier qu'on organise en France dans un an et demi, où forcément tout le monde attend cet événement avec impatience, tous les Français et j'imagine encore plus les athlètes. Comment aujourd'hui, toi, tu t'entraînes par rapport à cet événement, tu vois, ça sera probablement tes derniers jeux, je sais pas si, enfin, je te le souhaite pas. Tu vois, on a toujours envie que ça dure et on a toujours envie de te voir sur la piste, mais comment est-ce que tu le prépares là aujourd'hui? J'imagine que comparé à Londres ou Rio, t'es dans un état d'esprit différent, avec un rythme d'entraînement aussi différent.
Ouais, bah bien sûr, bah de toute façon après tu te prépares pas à 36 ans comme tu te préparais à 25 ans, ça c'est une évidence. Même si faut sortir du cliché de dire que l'âge est une limite et une contrainte, mais voilà, faut aussi être lucide que il y a certaines choses, tu récupères pas de la même manière, t'es pas aussi explosif, t'as deux trois trucs, donc voilà, faut un peu gérer. Et puis il y a une vie de famille aussi qui fait que c'est tout évolue. Moi, dans le contexte actuel, j'ai fait le choix un peu dur mais obligatoire de pas faire de saison en salle, parce que voilà, été 2022, j'ai tiré un petit peu trop, je le savais, sur le tendon au niveau de l'insertion de la fesse. Bah, cet hiver, j'avais avant même de commencer à reprendre, je savais que ça pouvait être un peu compliqué. Là, juste après Noël, on a senti que c'était encore trop sensible et que s'il fallait absolument sauter, j'aurais pu le faire, mais c'était au péril de mettre après les 18 mois un peu compliqué. Pas d'hiver, pas d'entraînement actuellement, si ce n'est un peu de gym et de muscu, histoire de aussi faire du bien à la tête. La reprise va se faire courant mars. Pour après, en fait, il y a deux objectifs. Très clairement, le premier objectif, c'est les championnats du monde qu'on a à Budapest au mois d'août. Et en fait, moi, la performance que j'ai faite l'été dernier en étant cinquième au championnat du monde à Eugene, quasiment me préqualifie directement pour les prochains. Et mon objectif, il est d'être à 100% pour retrouver un bon niveau, rejouer minimum un top 5, voire pourquoi pas remonter sur le podium au championnat du monde cet été. Et puis après, si ça se réalise, l'objectif phare de Paris va arriver plutôt bien. Donc sur la partie vraiment entraînement, ça va être de gérer un petit peu les intensités pour s'entraîner suffisamment pour retrouver un bon niveau, mais éviter de faire la séance de trop qui derrière après peut détruire un mois, deux mois, trois mois d'entraînement parce que tu peux plus rien faire. Donc ça, c'est de la gestion, quoi.
Et on met plus de temps à revenir, ouais. Ok. Bon, écoute, on va demander à Armand de laisser un peu de place, forcément, mais il a beaucoup d'appétit, ce jeune homme. Tu penses un peu à ce petit coup de Trafalgar au championnat du monde, peut-être pour les non-initiés qui connaissent un peu moins, c'est les championnats du monde en plein air, c'est le dernier titre qui peut officiellement te manquer. T'en rêves un peu de temps en temps, pourquoi pas?
On a toujours parlé, j'ai de la frustration parce qu'il y en a, il y a deux éditions où je me suis vendangé tout seul et je devais les gagner. Mais bon, voilà, c'est aussi le sport. À côté de ça m'a pas empêché quand même en 7 participations de faire 5 médailles. Donc, je vais quand même pas me plaindre de ça. Je dirais, le jour où j'arrête, si je l'ai pas gagné, en soi, ça changera. Enfin, je préfère peut-être en gagner une autre ou deuxième ou une deuxième sans que ce soit l'or, plutôt que de tout redonner pour gagner une seule or. Pour moi, les émotions et la régularité est tellement plus important que voilà, je me pose pas cette question-là. Et puis après, il y a une deuxième question là, c'est de se dire quel est ton niveau et quel est le niveau de la concurrence. Et actuellement, celui qui dit je veux être champion du monde, au saut à la perche. Donc faut être en mesure de pouvoir battre Duplantis, qui lui est le meilleur du monde de tous les temps et qui saute 20 cm de plus que tout le monde. Donc à partir de ce moment-là, tu dis bon, soit t'espères qu'il soit malade le jour J, et même malade ça va être compliqué, soit faut se résigner entre guillemets et se dire, évidemment tu vas pas sur une compète en disant ouais, je veux faire deuxième. Non, tout le monde veut gagner. Par contre après, faut aussi se satisfaire de ce qui est raisonnable. Je sais que dans mon cas, il y a 6 mois, je fais 5e avec 5m87. Le deuxième et troisième font 5m94, barre que j'ai raté de rien du tout. Et donc, pour moi, le podium, il est accessible parce que c'est un niveau que je peux retrouver. J'avais en 2021, donc je vais tout faire pour le retrouver. Et donc, à partir de ce moment-là, ça me projette sur à la fois les championnats du monde cet été et à la fois les Jeux à Paris où il n'y a pas que l'or qui compte. Parce que si on voyait que par l'or, que par la victoire pure en elle-même, il n'y aurait que des déçus et un seul vainqueur. Sauf que nous, à l'athlé, tu peux, dans l'absolu, et c'est paradoxal, tu peux perdre la compétition et gagner la compétition pour toi. Parce que quand tu es à ton niveau, que tu as tout fait, que tu as battu ton record et que tu n'es pas sur le podium, et t'as pas tout perdu non plus quand même. Et moi, clairement, l'objectif, il est de pouvoir remonter sur le podium. Et si je suis sur le podium, ça sera une victoire. J'espère que ma collection de médailles va encore s'étoffer un petit peu. Donc voilà, il y aurait trois mecs qui feraient 6 mètres régulièrement. Tu te dis, ouais, bon, c'est peut-être un petit peu présomptueux, quoi. Mais voilà, c'est pas le cas. Je connais mon niveau, je connais aussi le niveau des autres. Donc, ça va être intéressant. Je sais juste que j'ai du travail pour le retrouver, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin, il y a 2 ans tout pile, j'ai fait 6m06, quoi. Et hormis Duplantis, personne n'a été en mesure de faire cette performance-là. Donc, il y a 2 ans, c'était hier, quoi. C'est tout le challenge. Et puis autant Budapest, bon, je serai pas chez moi, autant en Paris, voilà, si tout se passe bien, je sais à quel point je suis capable de me transcender dans les moments forts comme ça. On va jamais se laisser abattre, quoi.
Bien sûr, si tu peux nous faire rêver l'été prochain, ça sera avec grand grand plaisir. D'ailleurs, je voulais te poser une question, tu vois, sur la finale à Londres. Il me semble que tu loupes 2 perches à 5m80. J'ai plus le chiffre exact. Vous êtes 3. Les 2 autres ont passé la perche. Et toi, tu fais l'impasse pour passer au-dessus et leur mettre 6 cm au-dessus, je crois, ou quelque chose comme ça.
Ouais, en fait, donc je fais mon concours jusqu'à 5m85. Je passe tout au premier essai. Je suis pour l'instant en tête. Et à 91, il y a les 2 Allemands qui passent au premier essai. Et moi, je rate mon premier essai. Et là, en fait, ce qui fait que si je passe 91 au deuxième essai, quoi qu'il arrive, je serai 3e. Donc, il n'y a aucun intérêt. En sachant qu'on n'était plus que 3. C'est-à-dire que j'avais plus de risque d'être 4e. Du coup, autant passer la barre du dessus. Et là, à 97, ils ratent leur premier essai. Moi, je rate mon premier à 97, à mon premier essai, mais qui est du coup mon 2e échec consécutif. Et donc, je me retrouve dernier essai, 97. Dos au mur, ils ratent aussi encore. Et donc là, c'est soit je passe, et je suis quasiment sûr d'être champion parce qu'il leur reste un saut et que du coup, pour me battre, il faut qu'ils passent 97 ou qu'ils passent 6m02 derrière, en sachant qu'ils auront une seule tentative et que moi, du coup, si je passe, j'en ai 3, quoi. Et s'ils passent pas, du coup, l'affaire est réglée, quoi. Je fais le saut qu'il fallait sans aucune erreur. Et donc voilà, c'est ce côté où qui est aussi super intéressant dans la perche, c'est que t'as ce petit côté un peu tactique, stratégique, qui dans les grands rendez-vous, à un moment donné, de toute façon, t'as plus rien à perdre, donc t'y vas, quoi.
Ouais, mais tu vois, c'est un peu sur ce terrain-là justement que je voulais t'amener, tu vois, sur ce coup un peu d'intox, tu vois, où les autres forcément aussi, tu vois, tremblent un peu et...
Ouais, parce que un mois avant, si tu veux, championnat d'Europe, je fais 5m97. C'est pas de l'intox dans le sens où je tente le tout pour le tout. Non, je tente pas le tout pour le tout, là. Je fais juste la suite logique et ça y va. Mais après, c'est juste que tu le fais sur le dernier essai et en fait dans l'esprit des gens, quand c'est la dernière tentative, elle est tout le temps vouée à l'échec. Et si tu la passes, c'est un exploit. Sauf que en fait, non, c'est pas un exploit. C'est un exploit. Faut y arriver, faut pas se rater. Mais après, ouais, sur la perche, si t'as 3 essais, c'est faut utiliser les 3, quoi. T'as pas que les 2 premiers et le 3e, c'est pour le décor, quoi. Donc c'est. Mais après, voilà, c'est plus avec toute la dramaturgie qu'il y a autour du titre olympique qui se joue, et puis avec le contexte de la finale et tout. Mais ouais, c'est ça qui est sympa quand même, quoi.
Ok, cool. Je voulais revenir rapidement sur Armand, parce que c'est, tu vois, hier je demandais aux auditeurs du podcast est-ce qu'il y a une question pour Renaud, et tout le monde me dit comment ça se fait que les deux s'entendent aussi bien, qu'est-ce qui a cliqué entre vous alors que on peut voir que vous aimez bien vous chamailler, vous faire des petites blagues, pas mal d'humour déjà j'imagine entre les deux. Qu'est-ce qui fait que ça a été, on va dire, une belle amitié entre deux champions qui auraient pu aussi avoir une rivalité moins saine, on va dire.
Je pense déjà parce que Armand, je le connais, ça fait 10 ans, je l'ai rencontré il y a 10 ans, quasiment 10 ans tout pile. Donc déjà, je suis un des rares qui l'ai connu tout petit, quoi. On en avait déjà parlé. En fait, sur une compétition dans le Nevada aux États-Unis, qui est en fait la marque de perche que j'utilise, ils ont une grosse compète de perche où moi à côté je suis petit joueur, ils ont des mesures américaines, hein, ils ont un immense hangar, je crois, où c'est un truc où ils font du rodéo comme ça, et là pour le week-end il y a entre 10 et 12 sautoirs. Donc ouais, ils font sauter, je crois que c'est quasiment 1000 personnes au total. T'es aux États-Unis, quoi. Et le truc, c'est quoi là, c'est quelque chose qui est au même titre que ce qu'a pu être Donetsk, c'est quelque chose qui est un peu fort, symbolique, un peu mythique, dans une autre dimension, quoi. Pour moi, c'était aussi un objectif un jour de pouvoir aller faire cette compétition-là parce que voilà, les États-Unis, ils ont toujours eu des perchistes. C'est le sport aux États-Unis, c'est quand même très, très important. Et en fait, du coup, à ce moment-là, Duplantis était aussi déjà un peu avec les mêmes perches. Et donc, la rencontre s'est faite comme ça, quoi. Et donc, après, c'était... j'avais 27 ans et Duplantis, il en avait 13 ou 14, un truc comme ça, quoi. Et donc, du coup, voilà, on s'est rencontrés. Je parlais à un petit gamin, quoi. Mais voilà, il y avait un petit truc. Le lendemain, j'ai été le voir sauter. C'était assez intéressant. Et puis, à l'époque, en plus, les réseaux sociaux, etc., c'était pas encore ultra développé comme ça l'est maintenant. Donc, le contact, tu l'avais pas comme ça. Mais voilà, on a réussi à rester un petit peu en contact. Et puis, au fur et à mesure, lui, forcément, il a grandi. Et puis, on s'est retrouvés. Voilà, le feeling, il est bien passé. Et je pense qu'après, c'est aussi un truc où tu peux pas expliquer pourquoi t'aimes quelqu'un et pourquoi tu détestes un autre. Alors, des fois, il y a des choses qui font que, ouais, mais il a fait un truc ou il a un comportement. Mais après, il y a des fois où ça passe. Tu cherches pas 50 000 raisons. Du coup, la connexion, elle s'est faite directe. Puis, à force de se connaître, je pense qu'il y a aussi... On a pas mal de points communs dans la vision dans laquelle on est. On est deux passionnés de saut à la perche. On a toujours, moi j'ai toujours apprécié être passé du temps avec lui. Lui forcément aussi d'une manière différente parce que j'étais son idole quand il était jeune. Donc forcément de pouvoir être présent comme ça, c'était assez un privilège dans un premier temps. Et puis après, on a réussi à passer outre. Et comme moi, j'ai eu une relation avec Jean Galfione qui est passé du côté un petit peu idole à maintenant c'est un ami. Et du coup, voilà, on se pose plus de questions. Et sauf que tu as des personnes, entre guillemets, qui sont élues pour être en connexion avec toi et d'autres qui ne le sont pas. Et puis, après, c'est ce qui fait que maintenant, on s'entend super bien. Et il n'y a pas de raison tout de suite que ça change, en tout cas, quoi.
Ok, ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir cette transmission, tu vois, qui peut se faire à chaque fois. Et du coup, hier, j'ai envoyé un petit SMS à Jean et je lui demandais, tiens, est-ce que tu as une question pour Renaud ? Et il m'a dit, est-ce que, du coup, après la carrière, tu seras plutôt voile ou plutôt sport automobile ? Du coup, je sais que j'ai vu des petites images au trophée Andros, donc j'ai peut-être une petite idée. Ou est-ce que tu aurais envie d'en découdre après sportivement ? Est-ce que la voile, ça te tente ? Vous avez un peu navigué ensemble ?
Ouais, il m'avait amené, mais là, pour le coup, Jean, il connaît déjà la réponse, quoi. C'est sport mécanique, il y a même pas de question à se poser, quoi. Donc après voilà, sans avoir l'ambition et la projection de se dire je vais faire une deuxième carrière là-dedans, mon sport c'est le saut à la perche, etc. Mais par contre, de pouvoir kiffer et se faire plaisir, parce que c'est vraiment ce que j'aime, que ce soit sur deux roues ou quatre roues, c'est vraiment un sport qui me fait énormément plaisir et que j'ai pratiqué pendant ma carrière, et qui, du coup, le jour où j'ai plus la contrainte, entre guillemets, de la perche professionnelle, je pense que j'ai de quoi m'amuser après à côté, quoi.
Ok, ça roule. Qu'est-ce qui te fait c'est sur quelle voiture que tu t'amuses le plus ?
Pour l'instant, je dirais en voiture, j'ai des expériences un peu sympas. Le trophée Andros, c'est un truc qui est quand même assez cool. Je le fais sur les petites voitures qu'ils ont, des petites voitures électriques en propulsion qui sont, entre guillemets, pas très puissantes, mais sur la glace, tu as déjà plus de puissance que tu peux. Et c'est vraiment sur ce côté un petit peu... Tu fais un truc où si tu le fais dans la vraie vie, c'est pas bon du tout. Parce que quand t'es sur la glace et que t'es en dérive totale, si t'es dans la vraie vie avec ta voiture en dérive totale, normalement l'issue est quand même pas ouf. Alors que là, l'avantage, c'est que t'es sur un circuit, c'est fait pour, et puis il faut presque piloter à l'inverse pour être bien. Et donc du coup, c'est des sensations qui sont juste incroyables. Et puis voilà, sur un truc où... t'es vraiment dans l'ordre du commun, quoi. Et donc ça, j'aime bien. Et puis après, j'ai tiré un rêve. Après, est-ce qu'il se réalisera, je sais pas, mais j'ai fait les 24 heures du Mans en moto en 2013. Du coup, bah, j'aimerais boucler la boucle et les faire en voiture. Donc on verra si ça arrive à se réaliser, mais ouais, quand même, j'ai ce petit rêve de pouvoir participer aux 24 heures du Mans en voiture. Et donc après, je sais que là, il y a du taf, mais voilà, il y a du niveau. Alors après, on est aussi sur une compétition où il y a des gentlemen, il y a pas que des pros, et je peux avoir peut-être ma place, mais pour l'avoir, il faut quand même que je progresse, il faut que je roule vite, il faut que je fasse des roulages, etc. Mais voilà, je pense que quand je me mets un truc en tête, l'objectif, c'est d'y arriver. Donc si je lance le projet un jour, je sais que je ferai le maximum pour que ça puisse arriver, quoi.
Bon bah écoute, moi je suis un grand habitué des 24 heures du Mans, donc j'aimerais bien te voir dans les paddocks et sur la ligne de départ, ça me ferait hyper plaisir. On termine un petit peu avec un peu de sport, parce qu'après il faut que je te libère. On a parlé un petit peu effectivement de préparation. On est mis en relation par Puma, qui est ton sponsor depuis un an et demi, deux ans maintenant.
Ah ouais, c'est ma troisième année là.
Troisième année qui t'accompagne sur ce super projet. Tu cours beaucoup? Tu fais beaucoup de pistes encore, même maintenant?
Alors, je suis pas un runner. Je déteste courir longtemps. Ce qui fait que c'est paradoxal, oui et non, mais pour tout ce qui est entre guillemets la partie foncière, moi, je vais faire du vélo parce que déjà, ça me permet de pas trop solliciter les articulations. Et puis, je trouve que c'est un peu plus sympa. Et après, par contre, moi, quand il faut courir, c'est j'aime courir, mais courir vite. Donc, du coup, après, c'est ouais, sur piste, je suis obligé. Hein, ça fait partie de mon entraînement. C'est un tiers de mon entraînement. C'est toute la partie course. C'est encore mon quotidien, et c'est là où je prends aussi quand même pas mal de plaisir.
Ok, plaque carbone du coup quand t'es sur la piste? Ouais.
Ouais, alors après moi j'ai par exemple sur mes pointes de perche, j'ai une plaque de carbone depuis longtemps, depuis avant même qu'il y ait quelques polémiques qui soient en place.
C'est marrant ça d'ailleurs que vous ayez accès même dans le sprint aussi depuis un moment, et puis c'est dès que c'est arrivé sur les coureurs de route que ça fasse du bruit, quoi.
C'est exactement ça, parce que enfin moi la petite plaque carbone je l'ai depuis je sais pas 2014, un truc comme ça. Ouais, 2015 je crois on avait commencé à le mettre, et il y avait rien d'illégal, hein, parce que j'étais pas le seul à en avoir ou quoi. Et après c'est juste que dès qu'on est commencé à passer sur les chaussures, ou après les gens aussi font des amalgames entre la plaque carbone et toute la technologie de la mousse qui a été développé, et en fait les énormes gains qu'il y a eu, c'est pas le carbone mais c'est la mousse. Sauf que du coup, ah ouais, mais ouais, bah ouais, forcément il y a du carbone, donc tu vas plus vite. Mais sauf que par contre, à côté de ça, il faut aussi capable de maîtriser la chaussure, parce que si t'as pas un certain type de foulée ou un certain rythme, tu peux avoir limite ces chaussures là vont être néfastes pour toi, parce que bah il faut quand même les solliciter. Si on reprend par exemple sur les sports mécaniques, sur la piste, ils sont avec des pneus slick, température chauffée, etc. Tu dis bah ouais, mais moi je peux pas. Enfin ouais, c'est facile, il a ça. Sauf que si toi tu sais pas rouler avec ça, bah en fait ça va être plus dangereux, parce que t'as pas le pneu en température, donc il va pas être perfo. Donc du coup, premier virage, t'es dehors. C'est très simple. Et là, du coup, alors c'est quand même les chaussures qui sont quand même beaucoup plus axées public, etc. Mais ça reste que c'est pas ça qui va faire toute la différence. Mais après, ouais, franchement, c'est la plaque carbone, j'aime bien, parce que moi j'aime bien avoir une chaussure qui soit dynamique et qui, ouais, j'aime quand je sens que ça répond au pied, quoi. Mais parce que moi je suis quelqu'un d'explosif, et donc ça correspond à mes attentes. Donc après, c'est vrai que tout le développement qui a été fait et qui est en train de se faire, j'aime bien, parce que ça correspond en plus à ce que je ressens, et de ce que j'aime du coup comme sensation, quoi.
Ouais, donc hyper important pour toi le choix de la chaussure, hein, finalement aussi important que le choix de la perche, presque.
Les deux sont complémentaires, et dans l'absolu, pour moi, si je veux parfait, il me faut la meilleure chaussure avec la meilleure perche. Il n'y a pas de meilleure perche, mais la perche adaptée au truc. Et j'ai fait des comparaisons à l'époque avec mon ancien partenaire. J'ai bossé sur le développement d'une paire de pointes, et j'ai fait plein de tests, et j'ai des modèles où typiquement, j'ai des chiffres scientifiques où le temps de contact au sol était plus long, et du coup je pense que la pose de pied n'était pas tout à fait la même, ce qui fait que la vitesse in fine était moins rapide pour quelques petites modifs. Donc après, c'est pas ça qui va faire toute la différence, mais en tout cas, tu as besoin aussi d'avoir, et c'est aussi une, par exemple, une paire de chaussures qui correspondait à d'autres athlètes. C'est pas parce que tu avais ça que tu pouvais pas faire 6 mètres, mais par rapport à ce que tu pouvais toi ressentir, moi je suis quelqu'un de léger, de dynamique, de rapide, donc à partir de ce moment-là, il me faut une chaussure qui puisse me permettre, entre guillemets, de passer la puissance au sol, si on veut utiliser l'expression. Mais du coup, ouais, le choix est important, parce que si t'es pas bien dans tes chaussures, derrière, après, c'est mort, parce que du coup, partout tu vas pas être bien, quoi.
Ouais, c'est clair. Comme je te disais, il y a beaucoup d'auditeurs qui font des sports d'endurance et de fond. C'est quoi ta petite séance préférée sur piste, qu'on puisse faire bosser un peu les auditeurs et qu'ils puissent se dire, tiens, là je vais me faire la spéciale Renault, qu'est-ce qu'on leur fait faire?
Alors moi je vais les décevoir, mais ça va pas être des séances très longues. mais c'est plus ouais, c'est vraiment sur du sprint, des séances où on fait du 40 mètres à bloc, quoi, où là on cherche vraiment l'intensité. Donc il n'y a pas énormément de répétitions, tu vois. Typiquement là, qu'on est sur des périodes où on prépare un peu les compètes, 4-5 jours avant, on se fait du entre 4 et 6 fois 40 mètres à fond, plein pâté. Et ça c'est quelque chose qui est assez cool, parce que quand tu le fais et que tu te sens bien, derrière, après, tu te sens fort, en fait. Et c'est alors t'as l'impression d'avoir rien fait, parce que tu t'es échauffé, et puis t'as, enfin ouais, le tu te dis, ouais, j'ai fait que 6 fois, quoi. Par contre, c'est 6 fois à bloc, intensément, physiquement et mentalement, t'y laisses du jus. Et par contre, c'est assez cool. Là où je dirais je partagerai plus avec les auditeurs, c'est moi sur mes séances de perche, où là, je suis capable de tenir, mais mon record, entre guillemets, de séance, c'est d'avoir sauté pendant 3h30. Et donc là, du coup, on est sur du très long terme. Là, je suis plus sur un type entraînement marathon ou long trail. Mais en fait, j'ai été capable de faire une séance où ouais, je commençais à 14h, 14h30, et à 17h, j'y étais toujours. Je sautais toujours, et puis c'était pas genre je sautais pour sauter, je faisais des vrais bons sauts. Alors c'est pas à intensité max, c'est pas avec élan max et avec les plus grosses perches, mais du coup c'est quand même des sauts où je te fais entre 5m50 et 5m80, et ça X fois. Donc je crois que j'ai dû dépasser les 100 sauts sur quelques séances. Là où, quand tu remets un peu dans le contexte, la plupart, tu fais entre quand déjà tu fais 30 sauts dans une séance, c'est plutôt pas mal. Je dirais, ouais, sur une moyenne, c'est entre 20 et 30 sauts, c'est bien. Et quand tu commences à approcher les 40-50, ça commence à être une bonne grosse séance, quoi. Puis bah, moi, je te faisais le double ou le triple sans problème. Donc voilà, donc j'ai quand même une petite partie foncière, résistance qui est quand même pas mal, mais du coup, c'est sur des efforts répétés, enfin sur des petits efforts intenses, mais répétés pas mal de fois, quoi.
Ok, bon bah écoute, très cool. J'imagine qu'on ne verra pas sur un 10 fois 1000. Mais moins, plus maintenant, c'est fini. Écoute, très cool. La toute dernière question que je pose, c'est un passage de micro, un peu comme un passage de flambeau. C'est de savoir qui est-ce que tu aimerais bien écouter justement sur le podcast extraterrien, pour parler un peu de sport automobile, parler un petit peu aussi d'engagement, de business à côté du sport. Est-ce qu'il y a un athlète ou une athlète que tu aimerais bien entendre et qui on pourrait poser une petite question de ta part la prochaine fois?
Après, il y en a un que j'aimerais bien, alors qui est pas dans le sport auto ou quoi, mais c'est il y a Kevin Roland, que en plus je connais un peu, et qui a une histoire qui est assez incroyable, notamment ces derniers temps. Donc voilà, même si c'est, j'ose imaginer connaître la réponse, mais c'est de nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête après son accident, et comment il a réussi à faire, en fait, ce que personne pensait capable. Donc voilà, je pense avoir les clés, mais qu'il puisse nous expliquer ça, parce que je pense, pour entre guillemets, le commun des mortels, de passer de t'es dans le coma à derrière tu retournes au jeu, c'est juste incroyable, quoi. Donc ouais, ça force le respect, parce que il a dû passer des moments ultra compliqué, mais après, ça remet aussi en avant le fait que quand t'es un sportif de haut niveau, et que tu sais pourquoi tu t'es là, bah ouais, tu te poses plus les mêmes questions, et là où tout le monde met des limites, bah toi tu les exploses parce que tu penses pas comme les autres, quoi. Il peut être assez intéressant, quoi.
Bon bah écoute, je note tes questions. Spoiler alerte, je vais au mois de mai à Annecy. C'est pas encore calé à 100%, mais on est en contact. Normalement, ça devrait le faire. Oscars. Et puis je recommande à tout le monde son film pour ceux qui l'ont pas vu, parce que il est aussi très beau et ça met en lumière justement toute sa force de caractère. Merci infiniment Renaud. Je me suis régalé. Merci pour tout cet événement et tout le travail que tu y mets. Je suis déçu un peu de pas te voir sauter, mais je t'ai déjà vu plusieurs fois à Charletti, au Stade de France aussi, donc c'est pas grave. Et puis je serai sûrement pas très très loin à Paris aussi. Écoute, je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Et puis, comme on dit chez moi, il y a que les montagnes qui se recroisent pas. Alors, je te dis à bientôt. Salut.
À très vite. Merci beaucoup. Ouais.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu. Donc, n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.